Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Lundi dernier, pour la 15e fois, un round de négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis a repris à New York dans le cadre du TTIP ou TAFTA, le traité pour un partenariat commercial entre les deux côtés de l'Atlantique. La réunion s'est achevée hier et c'était peut-être la dernière du genre. Car la fin du mandat de Barack Obama, puis les élections générales en France et en Allemagne l'an prochain, les oppositions multiples ici et là menacent d'enterrer définitivement ce traité. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? À une époque où la tentation protectionniste est là, à quelle aune doit-on mesurer le climat économique entre les deux côtés de l'Atlantique? Comment interpréter le redressement fiscal de 13 milliards d'euros imposé à Apple de ce côté-ci de l'Atlantique et la condamnation d'Airbus obtenue sur l'autre rive par Boeing? En d'autres termes, quel avenir pour la mondialisation sans une entente cordiale américano-européenne? Telles sont les questions que je vais poser aux deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Sébastien Jean.
Bonjour.
Sébastien Jean, vous avez une double casquette. Vous êtes d'abord directeur de recherche à l'INRA, l'Institut national de la recherche agricole. Et par ailleurs, vous dirigez le CEPI, un des principaux centres de recherche économique français, où vous menez des recherches sur le commerce international. Vous êtes un des co-auteurs du petit livre que le CEPI publie tous les ans et qui s'appelle succinctement, et ça veut dire ce que ça veut dire, Économie mondiale. Donc là, on en est à l'édition pour 2017. C'est publié aux éditions La Découverte. Une première question, Sébastien Jean, comment vos recherches agricoles et économiques vous ont-elles amené à vous intéresser au commerce mondial et en particulier à celui entre les États-Unis et l'Europe ?
Simplement parce que, comme on l'a constaté à l'occasion des discussions autour de cette négociation de transatlantique, le commerce international, c'est important pour l'agriculture et réciproquement, l'agriculture, c'est une part importante des discussions qu'on a sur les relations économiques internationales. Et donc, dès lors qu'on s'intéresse aux politiques commerciales en particulier, on est amené à essayer d'approfondir la connaissance qu'on a de l'activité agricole et puis de ses relations avec les politiques commerciales parce que, actuellement, étant donné l'intensité des relations commerciales, les accords qu'on a, les conditions d'échange conditionnent de façon importante les conditions économiques de l'activité agricole.
Alors avec nous dans ce studio également Benjamin Coria. Bonjour Benjamin Coria.
Bonjour.
Benjamin Coria, vous êtes membre du collectif des économistes atterrés et professeur d'économie à l'Université Paris 13. Votre dernier livre s'appelle Le retour des communs aux éditions Les liens qui libèrent. Le retour des communs, ça veut dire quoi ?
Ah ben les communs, c'est des formes dans lesquelles il y a de la propriété partagée pour l'exploitation d'une ressource qui est ouverte. Alors, ça paraît loin du sujet, mais pas tant que ça, parce que il y a toute une série de choses, l'eau, l'atmosphère, l'océan, etc., dont on serait très avisé de les déclarer bien communs, et donc à partir de là, d'établir des règles dans l'échange international. Bon, c'est d'ailleurs ce qu'on fait sans le dire à propos du climat, hein. Le climat est un bien commun, c'est une ressource en accès partagé, qui, à force d'être maltraité, a fait peser des menaces sur la société. Et donc, réglementer le climat, c'est le transformer en un bien commun.
Donc, qui n'est pas échangeable, qui n'est pas commercialisable.
Pas nécessairement pas échangeable. On peut tout à fait imaginer que des biens communs soient échangeables, mais ils doivent être échangeables suivant certaines règles qui garantissent la reproduction de la ressource et la reproduction de la communauté qui en vit.
Alors, au cours de cette émission des reportages, évidemment, nous irons en particulier à Dublin rejoindre Julien Lagache, qui nous parlera des investissements d'Apple en Irlande, et à New York, où Grégoire Pourtier a visité un centre commercial purement français qui s'appelle, en anglais dans le texte, Le District.
Les avantages pour l'Allemagne ou les États-Unis du libre-échange sont indiscutables. Cela peut renforcer nos économies et les rendre plus compétitives sur la scène internationale. Je ne crois pas, cependant, que nous parviendrons à achever la ratification du traité d'ici la fin de l'année, mais je pense que nous pouvons arriver à un accord sur le texte qui sera ensuite présenté à nos parlements respectifs. Mais au moins, les négociations seraient terminées et les avantages pour nos deux pays plus visibles.
This would be good for our two countries.
Dorénavant, aucun accord de libre-échange ne doit être conclu s'il ne respecte pas les intérêts de l'Union. L'Europe doit être ferme. La France y veillera. Il ne peut pas y avoir d'accord traité transatlantique. Cet accord ne va pas dans le bon sens. Il imposerait de nouveau une vision qui serait mauvaise pour notre économie.
Le TAFTA menace notre liberté démocratique à choisir de nos règles sociales et environnementales. Ça paraît fou, mais c'est ce qui est sur la table, ce sont les enjeux. Alors comment ? Parce que ce traité donne des droits exceptionnels aux multinationales et à leurs lobbies. Or, pour ces multinationales, le but, c'est d'éliminer un maximum de barrières au commerce.
Les États-Unis n'ont pas l'intention de forcer les Européens à manger des produits que les Européens ne veulent pas manger. Ce n'est pas le propos de cette négociation. Et il n'y a pas de poulet lavé à la Javel.
Vous aurez reconnu successivement Barack Obama, le président américain, récemment Manuel Valls, le premier ministre français, Karine Jacquemart, qui est une représentante de l'ONG Food Watch, et Dan Mulaney, le négociateur américain en chef. Alors, il y a un peu de tout dans cet extrait sonore. Il y a de l'agriculture, beaucoup. Il y a de la souveraineté. Mais où est-ce qu'on en est ? Est-ce que le TAFTA est mort. Est-ce que ces négociations commerciales qui durent depuis 3 ans entre États-Unis et Europe sont enterrées définitivement, Sébastien Jean ?
Je ne crois pas qu'on puisse dire à ce stade qu'elles soient enterrées. En revanche, je pense qu'on peut dire qu'elles sont rentrées dans un frigo, dans un congélateur, dont on ne sait pas si elles en sortiront et dans quel état elles vont en sortir. Autrement dit, il est exclu désormais qu'il y ait une avancée significative, substantielle dans cette négociation d'ici l'élection présidentielle et donc d'ici l'élection française et même allemande. Autrement dit, elle est gelée au moins pour 1 an et en fait, au moins sans doute pour 1 an et demi, 2 ans, parce qu'après, il faut que, de toute façon, même s'il y avait des tentatives pour réamorcer cette négociation, ça prendrait beaucoup de temps. Donc, il y a eu un peu une volonté politique d'entretenir l'illusion, il me semble, en fait, qu'on pourrait, en tout cas, une volonté de conclure très vite, notamment de la part de l'administration Obama, parce que Obama considérait que c'était un de ses projets importants de politique commerciale et de politique étrangère, et il voulait éviter que ce soit considéré comme un échec, et donc essayer d'amener la négociation à un niveau où le retour en arrière serait impossible pour l'administration suivante. Je crois que ça fait partie notamment des choses qui ont des perspectives qui ont fait peur aux Français parce qu'ils ne voulaient pas d'un, ce qu'ils appelaient un TTIP light, c'est-à-dire d'un accord qui aurait été principalement centré sur la suppression des droits de douane, parce qu'on supposait, et je pense à raison d'ailleurs, qu'on allait avoir une partie disproportionnée des coûts d'ajustement, notamment dans l'agriculture. Désormais, je pense que cette possibilité est écartée, clairement.
Benjamin Coriat, le TAFTA, il est enterré, c'est votre choix en tout cas.
Je partage l'avis qui vient d'être énoncé, à savoir que il est gelé et on peut pas dire pour l'heure qu'il est définitivement mort. Et effectivement, je pense qu'il y a les deux échéances électorales qui ont aux États-Unis et puis en Europe, en France et en Allemagne, qui ont tout bloqué. J'espère que ça signifie que, en tout cas, sous cette forme, il est mort. Mais j'en suis pas sûr, parce que
c'est quoi cette forme ?
Alors, la forme, c'est quoi ? C'est que, indépendamment de quelques secteurs dans lesquels il y a des barrières tarifaires qui sont encore significatives, notamment dans l'agriculture, d'ailleurs.
Barrières tarifaires, ce sont les taxes.
Oui, c'est les taxes. Cet accord ne porte pas, pour l'essentiel, sur les barrières tarifaires, encore une fois, à part quelques secteurs. Il porte sur ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, c'est-à-dire en fait sur les normes. Hein. Alors les normes sanitaires, les normes sociales, les normes réglementaires, etc.
Pour l'Europe, ce qui veut dire que cet accord ne vise pas à faire baisser les droits de douane sur les produits importés et exportés des deux côtés.
Très secondairement, parce que la moyenne des droits de douane entre l'Europe et les États-Unis, elle est de l'ordre de 4%. Donc on peut toujours les faire baisser, vous voyez, ça ne va pas changer grand-chose. Encore une fois, à part quelques secteurs, dont l'agriculture. Par contre, alors, cet accord vise à uniformiser les normes par le bas, hein, et l'Europe a beaucoup à perdre, parce que l'Europe avait, et en tout cas essaie d'avoir une réglementation sur des aspects sanitaires, sur des aspects anti-OGM, sur des aspects relatifs aux gaz de serre, etc. Par exemple, ce qui est en jeu, c'est de libérer le commerce sur les gaz, sur les schistes bitumineux et ce genre de choses. Donc l'Europe aurait beaucoup à perdre. Et j'espère bien que, je répète, sous cette forme, parce que je ne suis pas un ennemi de l'échange international, bien sûr, sous cette forme, le traité est mort.
L'Europe aurait beaucoup à perdre, Sébastien Jean ?
Ça dépend de la tournure que prend la négociation. Mais je veux dire que je partage pas du tout cette interprétation, mais je pense qu'elle est symptomatique, finalement, de tout le malentendu qu'il y a eu autour de cette négociation, qui, au fond, a été vraiment mal initiée politiquement par la Commission. Parce que, par la Commission européenne, notamment au début des négociations. D'abord, on a voulu le présenter comme quelque chose qui allait vraiment changer la donne. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, et on ne pouvait pas aller vers un accord qui allait changer la donne. Et du coup, en essayant à la fois de dire c'est très important, mais on est conscient du fait qu'il y a des garde-fous et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, il y avait un discours qui n'était pas cohérent, je pense, politiquement, et en même temps, il y avait un manque de transparence. C'était en particulier vrai lors de la commission précédente. Et je pense
c'était
que
la commission Barroso.
Absolument. Et donc, le commissaire européen, en particulier Karel de Gucht, qui était en charge du commerce. Et donc, je pense qu'il y a eu une incapacité à reconnaître que ils étaient engagés dans une négociation d'une nature différente de ce qu'ils avaient fait précédemment. Là où je suis pas d'accord, c'est dans l'interprétation avec Benjamin Coria, dans l'interprétation qui consiste à dire ça revient à tout niveler par le bas. Et donc je constate que c'est un échec de la Commission que ce genre d'interprétation reste relativement commune, parce que la Commission n'a jamais dit ça. Elle a toujours dit que ça ne changerait pas les lois. Ça ne changerait pas les réglementations, nos choix de réglementation sanitaire, environnementale, etc. Et je constate que là-dessus, il y a vraiment un procès d'intention qui continue à être fait à la Commission, c'est-à-dire que d'une certaine façon, elle a échoué effectivement à convaincre de sa volonté d'aller dans ce sens. La même chose, je crois qu'on en parlera peut-être, mais est vrai de la négociation avec le Canada, c'est-à-dire que
on en parlera tout à l'heure.
Voilà.
Oui.
Donc,
mais je vais reprendre.
Restons sur le TAFTA.
Oui, on va rester sur le TAFTA. J'enregistre le désaccord et je maintiens absolument ma position. C'est pas du tout pour rien que la Commission a tenu secrète ces négociations le plus longtemps possible. Et c'est pas seulement un changement de président, de Barroso, qui d'ailleurs depuis est passé à Goldman Sachs, que ceci explique en partie cela. Bien, c'est l'action de la société civile, des ONG, etc., qui a forcé l'Union européenne à mettre sur le tapis une toute petite partie du contenu des négociations, sur lesquelles d'ailleurs on a encore une série d'indécisions. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui laisse penser que ce qui est en jeu, c'est bien des normes, c'est bien des aspects réglementaires, et que l'Europe n'a pas grand-chose à gagner dans tout ça, c'est qu'une deuxième disposition essentielle de l'accord, c'est l'instauration d'un tribunal arbitral en dehors de la réglementation internationale, en dehors des règles de l'OMC, dont l'idée était que les multinationales pouvaient mettre en cause des décisions des gouvernements, précisément en matière réglementaire, pour obtenir des réparations. Et ces juges arbitraux devaient être à l'origine des juges privés, désignés par les partis. Bon, donc, on est quand même dans une drôle d'histoire, et dans lequel on essaie de se mettre en marge des règles internationales de commerce, en attribuant aux multinationales. Il faut quand même dire, les multinationales ont attaqué le gouvernement philippin et australien parce que il a pris des mesures anti-tabac. Le Québec a été attaqué et condamné pour avoir mis fin à une partie de l'exploitation des gaz de schiste. Bon, c'est ça l'accord, hein.
Sébastien Jean, je vous donne la parole dans 2 minutes, mais d'abord nous partons à New York. Retrouverez Grégoire Pourtier, qui s'est rendu au district, ça s'appelle le district en anglais. C'est un ensemble commercial 100% français qui a ouvert il y a très peu de temps à New York, à 2 pas du World Trade Center, un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Grégoire Pourtier à New York.
J'ai acheté 2 parts de tarte aux pommes, du chocolat et du jambon. En sortant, je vais prendre une baguette.
Au district, un espace essentiellement dédié aux produits français, Evan achète ce qu'il ne trouve nulle part ailleurs à New York. Le French savoir-faire fait toujours recette et le groupe américain HPH a saisi l'opportunité lors de la création de Brookfield Place, centre commercial dédié au luxe. Lucie Rizzi fait la visite. Pâtisserie, charcuterie et évidemment fromagerie, stand parfois problématique.
Beaucoup de produits sont très difficiles à faire venir, ils doivent être aux normes. Donc ça, c'est assez difficile, on s'est pas mal frotté aux limites de l'import. Sur le long terme, on aimerait importer encore plus de produits français. On est au tout début, mais c'est un peu notre objectif.
Cerné par le quartier des affaires et les résidences de standing, le district attire aussi la clientèle chic des boutiques prestigieuses de Brookfield Place.
Le luxe, ça le vend en poupe à New York. Les gens ont des goûts développés, ils ont voyagé en Europe et sont prêts à dépenser un peu plus pour un produit qui est de qualité.
À la supérette, même un produit classique comme des céréales gagne ses galons s'il jouit d'un emballage français. Evan, fasciné par le terroir, est ravi de pouvoir trouver 30 types de moutardes différents.
Par rapport à un supermarché classique à New York, c'est plus cher, mais si on compare à d'autres endroits de qualité, c'est le même ordre de prix. Vous ne payez pas un prix démesuré pour des produits exportés, mais ce n'est évidemment pas donné. On est clairement dans un endroit haut de gamme.
Un endroit collant bien à New York, passage obligé pour les enseignes de luxe. Hermès a ouvert une petite boutique spécialisée dans le parfum à Brookfield Place. Louis en sort justement ravi.
J'ai acheté de l'eau de toilette, mais aussi de l'eau de rhubarbe et une autre à la mandarine, de la mandarine ambrée. J'ai dépensé $230 ici, mais je suis allé à la boutique Hermès de Wall Street. J'étais déjà enveloppé dans une couverture Hermès quand j'étais un bébé, alors vous en avez pour votre argent. Quand vous achetez du luxe français, vous êtes sûr d'avoir la meilleure qualité.
C'était un reportage signé Grégoire Pourtier à New York, donc dans un temple du luxe. Il y a un mot qui retient l'attention, Sébastien Jean, dans ce reportage, c'est le mot « norme ». Est-ce que les normes communes qui auraient pu être négociées lors de ces discussions sur le TAFTA, n'auraient pas permis au bloc européano-américain de s'ériger en arbitre des élégances, en quelque sorte, mondiale ?
C'est au fond un peu au cœur du malentendu, cette question, parce que vous parlez de normes communes, mais il n'y a pas de processus d'élaboration de normes communes dans cette discussion réglementaire autour du TAFTA. D'ailleurs, on parle souvent d'harmonisation réglementaire. Je récuse le terme pour le contenu de cette négociation. Il s'agit de coopération réglementaire. C'est-à-dire, quel est le but? Ça n'est pas affiché. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'affiche la Commission, et je pense qu'ils sont sincères en disant ça, et je pense que c'est un but légitime de négociation. Ça n'est pas d'arriver à des normes communes, parce que ça n'est pas possible la plupart du temps, sauf à quelques exceptions près, c'est d'essayer de limiter le coût de nos régulations, de nos réglementations respectives, le coût que ça a en termes d'accès au marché. C'est-à-dire faire en sorte qu'à la fois on puisse complètement et sans entrave poursuivre nos objectifs de réglementation et en même temps permettre d'avoir un accès aux produits étrangers, en l'occurrence américains ou européens réciproquement, le plus facile possible. C'est ce qu'on fait en Europe depuis 1979. C'est ce qu'on a fait avec le marché unique, c'est-à-dire concilier les objectifs de réglementation et l'accès au marché. Donc, il me semble que il y a un peu une tentation de dire ce sont des choses complètement irréconciliables, puisqu'on a un objectif de réglementation, il est absolument intouchable et ça ne permet pas de parler du coût de cette réglementation. Ce qu'on a montré en Europe, je pense, depuis près de 40 ans, c'est que oui, ça a un sens d'essayer, tout en maintenant intangibles nos objectifs de régulation et nos choix collectifs de régulation, de limiter leurs coûts économiques.
Benjamin Coria, deux mots.
Oui, deux mots, parce qu'il y a le coût de la réglementation et puis il y a les bénéfices de la réglementation. Et il y a le coût de la déréglementation. Alors, je ne vais pas faire la leçon au CEPI sur l'histoire de la déréglementation financière venue des États-Unis et de ce qu'elle nous a coûté.
Mais ce n'est pas un traité de déréglementation.
Non, mais attendez, c'est un traité qui porte sur les questions de réglementation. Ça, on ne peut pas le discuter.
Oui,
on peut
mais
pas
ça n'est pas de la déréglementation.
Bien, donc c'est un traité qui porte sur... avec le but de faciliter les échanges, on l'a bien entendu, c'est-à-dire avec le but de faire en sorte que les réglementations convergent et de la part des grands groupes et des grands lobbies qui, eux, ont été admis aux négociations et pas la société civile, il y a bien l'idée qu'il faut abaisser les réglementations pour favoriser les échanges.
Ça sera le mot de la fin de cette première partie. Benjamin Coria, je vous interromps et je vous redonnerai la parole dans la deuxième partie. Sébastien Jean également, parce que pour l'instant, nous avons rendez-vous avec un flash d'actualité. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris.
Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons de la relation économique entre l'Europe et les États-Unis avec deux invités, Benjamin Coriat, professeur d'économie à l'Université Paris 13, membre du collectif des économistes atterrés, et Sébastien Jean, directeur de recherche à l'Institut National de la Recherche Agricole et directeur du CEPI, un des principaux centres de recherche économique en France. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons vu que le traité transatlantique qui était négocié depuis 3 ans était, pour reprendre le mot que vous avez employé, Sébastien Jean, congelé et qu'il allait peut-être sortir d'ici 2 ans du congélateur pour que les négociations reprennent. En tout cas, c'est une négociation qui a soulevé beaucoup de passion. On a pu l'entendre, cette passion, pendant la première partie de cette émission. Mais c'est aussi parce que les relations économiques entre les deux rives de l'Atlantique sont intenses. Qu'est-ce qu'on échange entre Européens et Américains, Sébastien Jean ?
On échange beaucoup de choses, mais quand on regarde, quand on fait le bilan en termes quantitatifs, on échange avant tout des voitures, des produits électroniques, de la chimie, des machines. Ensuite, on échange beaucoup de produits agricoles, mais au total, c'est assez minoritaire. Et soit dit en passant, d'ailleurs, dans les conditions actuelles, nous sommes très largement excédentaires, à la fois dans le commerce général, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les Américains nous vendent pour $1 de produit, on leur vend $1,40. Et même dans l'agriculture, encore proportionnellement beaucoup plus, on est très excédentaire par rapport aux États-Unis.
Mais c'est complètement en rebours de ce qu'on imagine en général.
Oui, et bon, mais c'est une vérité bonne à rappeler. De même que quand on parle de l'effritement des positions commerciales, il faut savoir que dans le commerce mondial, les États-Unis ont perdu environ 40% de leur part de marché. Depuis le début du siècle, nous avons perdu seulement 5 à 10%. Donc, je pense qu'il n'y a pas ni matière à fanfaronner là-dessus ni quoi que ce soit, mais c'est juste un fait qu'il faut rappeler pour repositionner le débat. C'est-à-dire, nous ne sommes pas une petite puissance commerciale, l'Union européenne. Dans son ensemble, il est la première puissance commerciale au monde.
Mais est-ce que on est passé de 6 à 12 puis à 28 avec d'autres étapes intermédiaires? Est-ce que cette importance commerciale ne s'explique pas aussi par cette croissance en nombre de nations de
non,
l'Union européenne?
Non, je parle à périmètre constant. On voit bien notamment la puissance commerciale de l'Allemagne. Donc, ça n'est pas. Il y a beaucoup d'autres dimensions. Hein. On voit aussi que les Américains sont la superpuissance militaire, sont la monnaie de référence et sont la superpuissance politique de référence. Hein. C'est indubitable par ailleurs. Mais il faut juste rappeler qu'en termes commerciaux, l'Europe, et d'ailleurs c'est un problème au niveau des équilibres internationaux, elle est trop excédentaire, donc elle n'est pas en position extrêmement défensive ou de faiblesse commercialement. Hein, même s'il y a des secteurs comme le secteur des nouvelles technologies, dans lequel évidemment les Américains ont un dynamisme et une position de force qui est indubitable.
Dans le sens inverse, Benjamin Coriat, est-ce que les échanges des États-Unis vers l'Europe sont aussi important pour tous les pays européens? Est-ce que la Hongrie compte autant pour les États-Unis ou la Pologne que un pays d'Europe de l'Ouest comparable?
Non, certainement pas. Bon, d'abord, je souscris tout à fait à ce qui a été dit. Hein. C'est vrai qu'il y a une image des États-Unis qui ne correspond pas à ce qu'ils sont. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont hyper dominants, effectivement, en matière militaire et en matière financière. Et pour le reste, l'économie américaine va plutôt mal en termes d'échanges internationaux, en tout cas. Elle a un déficit consolidé depuis très longtemps. Le seul point peut-être qu'il faut rajouter par rapport à ce qui a été dit, en ce qui concerne, et ça répond en partie à votre question très directement, c'est que ce bénéfice commercial, il est beaucoup concentré sur quelques grands pays exportateurs, hein, de fait. En particulier l'Allemagne, qui vend aux États-Unis ses automobiles, sa chimie, sa mécanique de précision, etc. Il y a quelques autres pays excédentaires, mais ce n'est pas le cas de la France. Hein. La France n'a pas un commerce excédentaire avec les États-Unis. Donc, ça doit être, quand on parle de l'Union européenne, il faut toujours faire très attention, hein, parce que il y a l'Allemagne et derrière l'Allemagne, la Hollande et quelques alliés et quelques pays avec lesquels l'économie est très intégrée. Et puis, j'ai presque envie de dire, il y a un peu le reste. reste, voilà.
Et c'est pas... la France, vous la mettez dans le reste ?
Bah, la France, elle est en position intermédiaire, on va dire. Elle est en position intermédiaire, mais elle n'est pas dans les dominants du commerce international, comme vous le savez. On a un déficit. Les nouveaux entrants, etc., sont plus une cible pour de la localisation internationale de production à bas coût, si j'ose dire, à bas coût de main d'œuvre. Sont pas encore des immenses marchés. C'est en cours pour des pays comme la Pologne, pour des pays qui sont plus importants en termes de PIB et qui ont devant eux une perspective de croissance.
Sébastien Jean, on parle beaucoup de la Grande-Bretagne en ce moment à cause du Brexit, de sa sortie à venir de l'Union européenne. Est-ce que la Grande-Bretagne joue toujours le rôle de tête de pont des États-Unis au niveau industriel et commercial en Europe ?
Tête de pont, c'est beaucoup dire, je pense, mais elle joue indubitablement le rôle d'allié privilégié pour les États-Unis, culturellement et même économiquement. Et puis, il y a une relation particulièrement forte dans les services et en particulier dans la finance qui est vraiment importante entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Beaucoup de grandes banques américaines ont leurs filiales européennes qui sont basées à Londres. Et c'est quelque chose de très important, évidemment. Et puis ensuite, il y a une culture britannique qui est très libre-échangiste et clairement, ça se ressent dans les équilibres des discussions internes à l'Union européenne.
Alors, cette relation économique entre les États-Unis et l'Europe, elle ne date pas d'hier. On va faire une petite remontée historique avec ces extraits sonores retrouvés par les spécialistes de la sonothèque de RFI.
Nous en avons parlé, pas dire qu'on est beaucoup avancé. On ne peut pas dire qu'on est beaucoup avancé, je veux dire à peu près ça.
Nous en avons discuté et j'ai réitéré la position des États-Unis qui souhaitent un succès du GATT. Je pense que le président français est d'accord là-dessus. Et puis, il y a des divergences bien connues. Nous ne les avons pas éliminées.
La France, autant que les autres, souhaite un accord international. Et c'est vrai qu'un accord sur le GATT représenterait un facteur de détente importante et donc de reprise des affaires.
Le président Clinton vient de dire que les États-Unis avaient des sociétés en jeu, à quoi je lui ai répondu que nous avions, nous, des travailleurs en jeu. Et de surcroît, j'ai ajouté que la banane des Antilles était, c'est évident, la meilleure et la meilleure du monde, qu'il fallait donc absolument la sauvegarder, que c'était en quelque sorte l'intérêt de l'humanité et que je comptais sur lui pour comprendre ses exigences.
Alors, peut-être aurez-vous reconnu, en remontant ces extraits sonores, la voix de Jacques Chirac. C'était en 1999, après une rencontre avec Bill Clinton. Et puis auparavant, il y avait François Mitterrand et George Bush qui échangeaient lors d'une conférence de presse en 1993. Tout cela concerne bien sûr les relations bilatérales États-Unis-France, mais ce qui frappe, c'est qu'à l'époque, on parlait plus du GATT, qui est devenu l'Organisation mondiale du commerce, et moins de relations de bloc à bloc. Sébastien Jean, je me trompe ?
Oui, il y a un lien entre les deux d'ailleurs. C'est que vraiment, l'Organisation du commerce international, après la Seconde Guerre mondiale, a été quand même structurée autour de la relation transatlantique, parce qu'il y avait une prédominance, une prééminence des États-Unis d'abord, puis ensuite de l'Union européenne avec elle, dans les relations commerciales internationales. Si bien que un accord entre les États-Unis et l'Europe était un préalable à tout accord multilatéral et même parfois il était presque suffisant, surtout si le Japon était mis de la partie. On est clairement plus dans cette époque-là. Mais ça explique le fait qu'il n'y avait pas vraiment matière à avoir une discussion, même s'il y en a eu. Vous auriez pu remonter par ailleurs au président Kennedy, qui notamment en 1962 avait ce qu'on avait appelé à l'époque le Grand Design for Transatlantic Partnership. Il parlait de la possibilité d'une déclaration d'interdépendance. Et vraiment, il y avait une volonté de nouer un partenariat. Bon, évidemment, c'était lié au contexte de l'époque, aux inquiétudes des Américains par rapport à la constitution du marché unique, pas vouloir se retrouver exclu du marché européen, vouloir aussi appuyer la perspective d'entrée du Royaume-Uni, ainsi de suite.
Dans l'Union européenne.
Dans l'Union, enfin, dans la communauté économique européenne à l'époque. Donc, c'est très ancien. Mais disons, c'est finalement le contexte, l'enceinte du GATT, qui a été le contexte dans lequel ont évolué principalement les relations commerciales entre les États-Unis et l'Europe. Et ça suffisait parce que finalement, ce que vraiment les deux parties voulaient, ils arrivaient à l'imposer à tout le monde dans ce qui était un club de pays riches à l'époque. Et on est Voilà, on a changé d'époque, c'est-à-dire que maintenant, plus rien n'est possible sans l'accord de la Chine en particulier et des autres grands émergents.
Benjamin Coriat, ce GATT, cet accord général sur les tarifs et le commerce, oui. Parce que c'est la traduction littérale.
Oui, non, mais c'est ce qui a été dit est tout à fait exact. Le point d'inflexion, c'est Seattle. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a
c'est-à-dire
eu.
C'est-à-dire
C'était
1999.
Voilà, 1999, qui a été donc l'une des conférences qui devait assurer la reprise de négociations dans le cadre du GATT. Mais vous avez tout à fait raison d'introduire ce sujet, parce que l'une des raisons pour lesquelles on a ces accords bilatéraux, c'est l'échec du GATT et l'incapacité aujourd'hui à relancer les négociations internationales au niveau multilatéral. Pourquoi est-ce qu'on a échoué ? D'abord parce que l'ancienne mauvaise méthode qui consistait à ce que les pays riches se mettent d'accord, fassent ensuite quelques concessions aux pays du Sud, ne marche plus. C'est ça qui s'est passé à Seattle, y compris d'ailleurs parce que la Chine a pris la tête du groupe des pays du Sud et s'est pas mis du côté des pays du Nord. Mais aussi, c'est là qu'on retrouve notre sujet. Moi, plus profondément, je pense que l'échec de la relance des négociations multilatérales tient au fait que il y a une conception de l'échange international qui laisse totalement de côté toutes les dimensions environnementales, toutes les dimensions sociales, qui est focalisée sur la facilitation des échanges, qu'il s'agisse de biens, de services, etc., sans la prise en compte de ces considérations-là, d'où le fait que les accords, c'est une des raisons, les accords échouent. Donc, on parlait tout à l'heure de biens communs, hein, la capacité des organisations internationales à réintroduire des considérations environnementales, sociales, etc., dans les traités, à mon avis, est clé pour libérer de nouveau de l'échange international.
Sébastien Jean, tout à l'heure, vous parliez de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, rappelons-le. C'est après ce conflit que les États-Unis sont affirmés comme la première puissance économique mondiale. Quelles ont été les grandes étapes de leurs relations économiques avec l'Europe à partir de ce moment-là ?
Les grandes étapes, elles ont été marquées assez vite par la période de la Grande Dépression des années 30, qui s'est vraiment caractérisée par une fracturation, un fractionnement de l'économie mondiale, montée des barrières protectionnistes, des dévaluations compétitives d'un certain nombre de pays. Et de façon symptomatique, à la fin des années 30, justement, les États-Unis avaient poussé avec leur secrétaire d'État Cordell Hull, à l'époque, notamment un projet d'accord de libre-échange avec le Royaume-Uni, avec la perspective de l'étendre aux autres partenaires européens, enfin à d'autres pays européens, pas tous. Donc cette perspective a avorté parce qu'elle a buté sur la, évidemment, pour des raisons politiques et à cause de la guerre. Mais dès la fin de la guerre, il y a eu
Vous parlez de la deuxième.
Donc dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu d'autres discussions pour l'éventualité d'un accord transatlantique. D'ailleurs, c'est un peu dans cette période, disons, dans les années qui ont suivi la guerre, que pour la première fois, on a parlé de NAFTA, mais à l'époque, c'était pas ce qui est maintenant le North American Free Trade Agreement, c'était le North Atlantic Free Trade Agreement.
Le NAFTA actuel, c'est Canada, États-Unis, Mexique,
voilà. Donc il y a eu pas mal de discussions, et puis finalement, je crois que c'est au fond, parce que le GATT a pris un élan et a pris une dynamique propre, que c'est ça qui a pris le dessus et que ça a servi de vecteur pour gérer les relations commerciales entre les États-Unis et l'Europe, parce que c'était très important, en particulier pour les États-Unis, d'arrimer politiquement à eux le bloc européen, et la relation économique, évidemment, le plan Marshall et commercial était centrale dans cette volonté.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons des relations économiques entre l'Union européenne et les États-Unis à l'occasion du 15e et peut-être dernier round de négociations sur le traité commercial transatlantique. Deux invités à ce micro, Sébastien Jean, directeur du CEPI, un des principaux centres de recherche économique français, et Benjamin Coriat, professeur d'économie à l'Université Paris 13. Benjamin Coriat, Sébastien Jean faisait allusion au plan Marshall. Donc, on sait que c'est un plan de financement, de relance de l'économie européenne par des financements purement américains. Est-ce que ça a joué un grand rôle dans les échanges commerciaux ultérieurs entre les deux côtés de l'Atlantique ?
Ah oui, je crois que oui. Bon, d'abord, en ce qui concerne les échanges commerciaux proprement dit, mais surtout, c'est ce qui a installé, si je peux dire, la suprématie et le circuit international du dollar. Donc c'est, moi j'aurais tendance à dire que le plan Marshall a joué un rôle dans la relance de la croissance européenne, incontestablement. Il y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Bien. Mais je pense que le rôle de très long terme, si je peux dire, c'est l'installation de la suprématie du dollar. On sort d'une période pendant laquelle la livre à travers des systèmes de
la livre sterling britannique.
Livre sterling, voilà, a perdu son hégémonie, et c'est le début de l'hégémonie internationale du dollar. Je pense que un aspect, si on peut dire, non perçu immédiatement, mais dont les effets de long terme ont été très grands, c'est l'installation des circuits internationaux basés sur les talons dollars.
Sébastien Jean, le plan Marshall, quel impact ?
Ben, c'était très important dans les relations commerciales, et parce que notamment c'était une façon pour les Américains de s'assurer que les Européens étaient en position de financer leurs importations de produits américains, notamment qui étaient indispensables à la reconstruction. Donc je pense que c'est quand même avant tout quelque chose de politique, que ça ait contribué à mettre en marche ce système fondé sur le dollar. C'est juste. C'était de toute façon l'architecture qui avait été d'emblée organisé par les accords de Bretton Woods, instituant le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc c'était une façon de faire marcher ce système, avec l'idée que l'Europe avait besoin d'une assistance des États-Unis pour démarrer, disons, parce qu'elle était dans un état catastrophique, avec un manque de complet d'infrastructures et de matériaux pour la reconstruction, et que voilà. Donc il y avait un intérêt bien compris des Américains, c'est-à-dire si vous voulez exporter, il fallait que les Européens puissent payer, et c'était une façon d'avancer la pompe aussi.
Non, il faut juste préciser sur ce point que à Bretton Woods, qui a installé donc la suprématie du dollar,
en
44, il y avait deux plans. Hein. Il y avait en particulier un plan Keynes qui visait à introduire une forme de monnaie internationale qui n'assurait pas l'hégémonie du dollar. Et donc ça a été fait. Bien sûr, les Européens ont été obligés d'accepter compte tenu de leurs besoins, mais c'était pas leur demande première. Hein. Voilà. Donc il y a une dimension de rapport de force des Américains vainqueurs et premiers grands vainqueurs de la guerre, si je peux dire, qui leur a permis d'installer un système monétaire international à leur bénéfice jusqu'au à la décision de Nixon de décrocher le dollar par rapport à l'euro.
Alors, il y a des produits qui sont extrêmement présents dans le monde entier, en particulier en Europe, et qui sont originaires des États-Unis. Et quand je dis produits, le mot est peut-être abusif, parce que ce sont souvent des logiciels, c'est tout ce qui a trait à l'informatique. Et la société Apple vient d'être condamnée à un redressement fiscal par Bruxelles de 13 milliards de dollars. Est-ce que ça ne complique pas, Sébastien Jean, les relations entre les deux camps ? Parce qu'on a vu, par exemple, que les patrons américains s'étaient complètement solidarisés avec Apple et refusaient cette amende. Enfin, ce redressement fiscal.
Ça les complique, ou plus exactement, ça révèle un contexte dans lequel il y a un degré d'imbrication de nos économies qui rend un certain nombre de questions très compliquées. Et il faut rappeler évidemment que ça vient après d'autres épisodes retentissants, comme l'amende que les États-Unis ont infligée à BNP Paribas. Hein, je crois que c'était 9 milliards de dollars à l'époque. Et puis plusieurs autres questions de ce type-là. Évidemment, le scandale Volkswagen récemment. Ce qui est compliqué, c'est que on a un certain nombre de secteurs dans lesquels le jeu économique, la concurrence économique est d'emblée maintenant mondiale. C'est évident pour les logiciels, mais on développe plus une voiture pour le marché français maintenant. Hein. Je veux dire, c'est absolument plus possible étant donné les coûts de recherche et développement. Il faut le faire au niveau mondial. De même que dans la pharmacie, on ne peut plus rentabiliser le coût de développement d'un médicament en se focalisant sur un marché. Donc, ça pose une question vraiment cruciale pour la façon de gérer cette période de mondialisation. C'est comment régir, disons, ces relations économiques à partir du moment où ces imbrications, comment garantir la souveraineté des États dans la régulation économique. Et là, il y a une réaffirmation, je pense, saine de la part de l'Union européenne, de sa volonté de faire appliquer autant que possible ces réglementations fiscales et de mettre un frein. Et je pense qu'il faut vraiment, c'est bon, il faut aller dans ce sens, et même de façon plus décidée, mettre un frein aux pratiques des multinationales qui optimisent de toutes les façons possibles, qui contournent la loi, quand c'est pas dans la lettre, c'est dans l'esprit, pour minimiser leur contribution fiscale.
Benjamin Coria.
Oui, dans l'affaire Apple, il faut être plus précis que ça. Ça veut dire que, d'abord, on a en Europe une concurrence fiscale extrêmement malsaine qui a été installée d'emblée, qui fait que un pays comme l'Irlande, puisque c'est de l'Irlande qu'il s'agit, peut pratiquer un impôt sur les sociétés de 12,5%, ce qui lui permet d'attirer évidemment toutes sortes de multinationales, parce que en aucun cas elle ne se localiserait là si il n'y avait pas cette carotte, si j'ose dire. Et les pays qui ont un système de sécurité sociale qu'ils doivent financer par de l'impôt se trouvent pénalisés. Alors, ce qui est encore plus grave que ça, c'est que dans le cas d'Apple, non seulement il y a cette concurrence fiscale, malheureusement qui est légale, qui est une des causes qui fait que l'Europe va si mal, bien, et les Européens feraient bien de s'occuper de ça. Mais de surcroît, le gouvernement irlandais a passé des accords quasi clandestins avec Apple pour faire en sorte que même ces 12,5% ne soient pas payés et que ça soit ramené à quelques pourcents, voire quelques centièmes de pourcent. On ne sait pas très bien. Bon, voilà. Donc là, on est quand même dans des situations totalement folles. Alors, ce qui est invraisemblable, c'est qu'on voit le gouvernement irlandais se solidariser d'Apple, parce que c'est vrai que de toute façon, quoi qu'il obtienne pour lui, c'est mieux que rien, parce que sinon Apple irait jamais dans un endroit aussi perdu que l'Irlande, si j'ose dire. Donc là, on est vraiment dans des situations dans lesquelles le commerce, les arrangements internationaux, la réglementation internationale doit sérieusement être revue, et surtout il faut s'occuper de la faire respecter.
Alors l'Irlande, vous avez raison de dire, profite de cette situation. Beaucoup d'entreprises internationales ont choisi d'installer leur siège, en particulier à Dublin, Google, Facebook, Twitter, Amazon, qui participent au renouvellement urbain de la capitale irlandaise. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Julien Lagache à Dublin.
À quelques encablures de la mer, le quartier des docks à l'est de la ville, une ancienne zone industrielle où subsistent quelques rues d'anciennes maisons ouvrières en briques rouges, James y vit depuis 40 ans.
Il n'y avait que des familles ici, avec des tas d'enfants qui jouaient dans le quartier. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, tout a changé. Ça a bien pris une vingtaine d'années pour en arriver là. Vous voyez ce grand bâtiment? C'est Google. Passez sous l'arche de Google, vous verrez les nouvelles grandes résidences. Avant, c'était là qu'on abattait le bétail. C'est là que je travaillais.
Comme d'autres grandes villes européennes, Dublin se transforme, les services réinvestissent l'espace laissé par l'industrie et ils attirent à eux des jeunes de tous horizons. Ils sont plus de 7000 dans les start-up ou chez les géants du web dans le quartier surnommé Silicon Dock, ce qui a bouleversé beaucoup de choses autour de l'épicerie de Judy.
Barrow Street, juste à côté, c'était affreux, délabré, pas très sécurisant. Et puis, Google et les autres sont arrivés. Des jeunes se sont installés ici, alors les prix ont augmenté, mais j'imagine qu'on n'a pas les avantages sans les inconvénients.
Et le phénomène s'étend partout dans la capitale irlandaise. En face des docks au nord de la rivière Liffey, le quartier d'affaires grignote d'anciens quais. Non loin de là, la presqu'île Dispoint, près du port brasse 6000 employés sur une soixantaine d'entreprises, dont Google et Microsoft, chez qui a travaillé Tiennet.
Chaque jour, on trouve de nouvelles offres d'emploi, surtout si ça implique de travailler en langues étrangères. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Brésiliens, de Français, d'Espagnols. Pour ceux qui veulent avoir une première expérience dans ce secteur, Dublin est le premier choix en Europe.
De plus, le turnover important offre une certaine mobilité avec des évolutions de carrière. Dublin n'est donc pas qu'un tremplin et certains font le choix de rester, comme Sébastien, installé depuis 5 ans et qui voit les changements autour de lui.
Moi, je trouve personnellement que ça ne fait que grossir et que ça ne les emplit pas. Mais après, la ville s'étend un petit peu quand même. Dès que tu prends un petit peu d'auteur, tu es entouré de grues sur la ville de Dublin. Quelque chose que je ne voyais pas quand je suis arrivé à 5 ans. Donc soit des rénovations, soit des buildings qui se construisent. Jamais très haut. Mais tu sens vraiment le développement. Ouais.
Après la crise de 2008, la construction a connu un coup d'arrêt en Irlande. Certains chantiers d'ampleur, tels le siège de l'Anglo-Irish Bank, étaient restés à l'abandon. Désormais, la ville affiche un autre visage et l'immobilier commercial est en plein boom. Plusieurs multinationales inaugureront d'ailleurs de nouveaux bureaux avant l'été 2017.
Reportage signé Julien Lagache à Dublin. Qu'est-ce que ça nous dit de la mondialisation finalement? Contrairement à ce que vous disiez, Benjamin Coriat, l'Irlande, c'est pas un coin paumé, reculé.
Mais c'était un coin paumé, un coin reculé, qui a réussi son développement, en tout cas partiel, parce que précisément, ils se sont mis en dehors, si je peux dire, de la réglementation internationale. Parce que je répète, c'est même pas seulement leurs 12%, c'est des abattements considérables sur ces 12% d'imposition eux-mêmes. Alors dans ces conditions, quand on joue les free riders, bien sûr, on est capable d'attirer du monde.
Sébastien Jean, on a commencé à parler de cet accord, on a commencé l'émission en parlant de cet accord, le TAFTA qui est congelé. Il y a un autre accord qui est sur le point d'être signé, qui va déboucher, lui, vraiment, c'est le CETA entre l'Union européenne et le Canada. Alors, ça sera le mot de la fin de cette émission. Est-ce que c'est un appel d'air pour les échanges entre les deux régions, pays?
Alors d'abord, est-ce qu'il va déboucher? On va le voir, parce que ce traité, il entre dans une phase de ratification qui s'annonce un peu chaotique. Il aura certainement, s'il est mis en œuvre, un effet dynamisant assez fort sur les échanges. Je pense que par rapport à la discussion qu'on a eue tout à l'heure, c'est le moment aussi de parler de choses concrètes. Et donc, je pense qu'il faut regarder concrètement le contenu de cet accord. Là, évidemment, il est long, son texte fait 1600 pages. Mais moi, je dis, par rapport à tous ces procès, ce qui me semble être souvent des procès d'intention qu'on fait à la Commission, dites-moi ce qui, dans cet accord, est véritablement gênant, tirerait nos normes vers le bas. Il me semble que, tel qu'il existe actuellement, il n'y a pas d'éléments qui vont dans ce sens et qui, disons, alimentent ou soutiennent ces procès d'intention qui sont faits à la Commission. Donc, c'est un texte qui a ses qualités et ses défauts, mais qui certainement dynamisera la relation entre les deux pays.
Alors, Benjamin Coriat, un mot juste.
Puisque la Commission est si sûre d'elle-même, qu'elle fasse ratifier par les parlements et qu'elle ne fasse pas ce qu'elle est en train de faire, essayer d'imposer par anticipation des éléments de l'accord avant que ça soit approuvé par les États membres.
Ça sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Je sais, et je l'ai expérimenté, que vous n'êtes pas d'accord et qu'on pourrait faire une deuxième émission consacrée au CETA. Merci à vous deux, en tout cas Sébastien Jean, Benjamin Coriat, d'avoir été dans ce studio. Vous pouvez bien sûr nous réécouter sur le site RFI.fr. Merci à Guillaume Munier et Quentin Bresson qui ont réalisé et mis en onde cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.